Les conférences de Radioéthique. Vous n'avez pas pu vous y rendre, c'était trop loin, l'horaire était impossible. Pas de panique, Radioéthique vous propose de l'écouter comme si vous y étiez. Notre poison quotidien, c'est déjà le documentaire le plus vu de la décennie. Il démonte un dogme longtemps établi, l'agriculture intensive qui devait nourrir l'humanité n'aura finalement servi qu'à rendre nos assiettes potentiellement dangereuses. Herbicides, insecticides, fongicides, additifs alimentaires tels que l'aspartame ou encore l'emploi de bisphénol A, trop de molécules, trop peu testées, avec pour résultat un véritable cocktail de produits chimiques. Le 29 mars 2011, quelques semaines après la sortie officielle de son documentaire, Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation et réalisatrice de Notre Poison Quotidien, était invitée par la librairie Soramps à venir partager avec les Montpelliérains le fruit de son travail. Trois longues années de recherche, de documentation et de rencontres avec des experts du monde entier. En tout, Marie-Monique Robin aura traversé 11 pays pour réaliser son documentaire. Après la projection, elle présente au public venu nombreux sa démarche et sa méthodologie.
Je voudrais vraiment dire en introduction que c'est frappant de voir que très tôt donc, on considère que le progrès est un bien universel vers lequel nous sommes censés tous tendre et qu'il a un coût environnemental et sanitaire. Et on le constate froidement. J'en veux pour preuve toutes ces études et ces rapports qui sont faits dans les usines à l'époque européenne ou américaine, où on va constater par exemple, vous verrez dans mon livre, dans telle usine, les ouvriers qui sont exposés à des vapeurs de plomb, parce que je me suis intéressée à l'essence au plomb, au benzène et au chlorure de vinyle, qui sont des produits qui ne rentrent pas forcément en contact avec notre chaîne alimentaire, quoique le chlorure de vinyle, parce que c'est du PVC, et il y en a beaucoup dans les canalisations d'eau maintenant. Eh bien, on constate que les ouvriers deviennent fous. D'ailleurs, on appelle les usines butterflies. Et on constate que dans telle usine, il y a 3 morts par intoxication liée au plomb, que dans telle autre, il y en a 10 autres, etc. Il y a une usine où on constate que pour un autre produit, tous les ouvriers ont la mâchoire qui désagrège, et en même temps, c'est une nouvelle maladie, on ne l'avait jamais vue. Et une autre usine, on constate que les ouvriers perdent leurs phalanges, et c'est encore une nouvelle maladie, mais on l'a décrit. Et c'est absolument inouï de voir comment le tribut payé par les ouvriers à cette folie chimique est absolument étonnant. Et tout ça est disponible sur Internet. Parce que ça, mon deuxième travail, une fois que j'ai lu tous ces livres historiques, etc., après, j'ai essayé d'identifier des scientifiques et des études scientifiques. Alors ça, c'est un énorme boulot, parce qu'en fait, il y a des moteurs de recherche qui s'appellent, par exemple, Medline, PubMed, vous pouvez aller voir. Alors vous tapez par exemple cancer et pesticides. Alors, je crois que c'est 16 800 articles. Alors quand vous voyez ça, vous voyez que c'est impossible, comment je vais faire? Alors en fait, il faut progresser méthodiquement, c'est-à-dire il faut identifier dans ces moteurs de recherche qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des scientifiques qui ont, eux, pris un thème et ont revu toute la littérature scientifique. Alors le problème, c'est d'identifier que ce scientifique-là est bien un scientifique, un bon scientifique, pas un scientifique qui est payé par l'industrie parce qu'il va faire n'importe quoi, et on pourra en revenir, on pourra en revenir là-dessus. Donc il faut identifier.
Il y a aussi les conflits d'intérêts.
Ah oui, vous allez voir, c'est une.
C'est comme en politique.
C'est carrément une industrie. La fabrique du doute est une industrie. On pourra en reparler. Pour le modèle, c'est l'industrie du tabac. Enfin, on en reparlera. Mais en tout cas, donc il faut identifier que ce scientifique vient de tel laboratoire et que ce laboratoire n'est pas suspect ou suspecté. Enfin, fait son travail, quoi, là. Et puis après, on lit sa méta-analyse. Lui, il aura par exemple pris pesticides et lymphome chimien, que j'ai fait par exemple. Et il aura identifié les temps d'études qu'il y a eu, et puis il a fait tout un travail. Donc, moi, après, je me suis centré sur les études qu'il avait sélectionnées, tu vois. Parce que sinon, et j'ai fait ça pour alors, tous les pesticides, tous les cancers, donc ça fait beaucoup de travail. Puis après, tu as l'aspartame, après, tu as le bisphénol, etc. Donc c'est tout un travail de recherche sur Internet d'abord, mais ce qui est très bien, c'est que finalement, quand tu sélectionnes tes études, tu les achètes et tu les as tout de suite chez toi. Enfin, moi j'ai acheté, j'ai pris mes études, ça coûtait cher de mon budget études, parce qu'à chaque fois c'est 30 €. Enfin, donc voilà. Après, une fois que tu as fait ça, eh bien, il faut contacter les scientifiques que tu vas interroger, les interviewer un peu partout dans le monde, donc c'est un autre travail. Puis après il y a le voyage et tu confrontes ce que tu as découvert à
tu vois. Oui, donc après il y a un recoupement des infos. C'est notre travail à tous,
voilà.
Tous les journalistes,
voilà. Ouais.
En général.
Tout à fait. Alors, en sachant que il a fallu aussi que je comprenne bien, j'ai fait tout un travail sur comprendre. Alors, la réglementation, c'était un énorme chantier, personne ne l'avait fait, c'était un casse-tête. Alors, parce qu'en fait, ce que vous avez vu là, la dose de manière acceptable, qui est le pilier de la réglementation, personne n'a travaillé là-dessus, personne. Tout le monde a pris ça comme un outil, c'est carrément même un tome. Et Ils ressortent de ça, mais personne ne sait d'où ça vient. Et ça, c'est quand même incroyable. Hein. Et moi, j'ai fallu que j'aille dans les centres d'archives de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai fini par découvrir qu'il y avait un certain René Truot, dont on voit deux archives dans ce film, qui est à l'origine du système, qui a écrit a posteriori sur pourquoi il a eu cette idée généreuse, certes, mais qui a été ensuite complètement dévoyée. Et ça, c'est un domaine où il y avait eu aucun travaux de fait. C'est quand même assez étonnant. C'est un peu... Il y a deux livres qui m'ont beaucoup éclairé, que je vous invite à lire, dont je parle dans mon livre, mais que je vous invite à lire si vous avez envie d'en savoir plus. Là, c'est un livre qui a été fait par un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck, c'est la société du risque, qui est sorti en 1986 au moment de Tchernobyl. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, on en avait parlé, ce qu'il n'a pas fait pour Tchernobyl, évidemment. Et c'est un livre vraiment très éclairant parce qu'il explique comment la société industrielle et post-industrielle est une société du risque, donc il y a du risque partout. Le problème, c'est de faire en sorte d'éviter, évidemment, que ce risque nous frappe, si j'ose dire, hein, dont toutes ces agences de réglementation, de gestion, d'évaluation du risque sanitaire, du risque des médicaments, du risque du travail, enfin, il y a des risques partout. La preuve, c'est qu'on crée des agences partout pour essayer de faire en sorte que le risque soit le plus infime possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que c'est déjà expliqué au Richbeck il y a 30 ans, c'est qu'on pensait qu'on pouvait contrôler le risque à un niveau assez bas. Donc on savait qu'il y aurait des morts et des malades, hein, ça c'est clair, on le sait. Le système de réglementation est basé sur l'idée, sur le fait qu'on estime qu'un produit est safe, comme on dit en anglais, sûr, s'il n'y a qu'un mort par cancer sur 1 million d'habitants. Alors, on est 60 millions, ça fait donc 60 morts pour un produit qu'on estime normal. Le risque, jusqu'à quand on est prêt à, on est prêt à l'accepter, on nous a jamais posé la question. Et on espérait, et c'est là que je pense que ça va changer par la force des choses, on a longtemps espéré que ce risque serait limité aux usines, à certains endroits, et que la majorité de la population serait épargnée. Eh bien non. Le progrès, il est comme la révolution. Il dévore ses propres enfants. Et maintenant, tout le monde est malade. Il y a des malades partout. Parce que ici, j'imagine, qui a dans sa famille ou dans son environnement proche quelqu'un qui a un cancer, levez la main, moi. Mais évidemment, mais tout le monde. Et pour ne prendre que le cancer du sein, qui connaît quelqu'un qui a un cancer du sein?
Là aussi, c'est un peu génie.
Oui, évidemment, et c'est partout. Sauf que ceux qui nient, c'est pas vrai, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise foi, et puis c'est de dire qu'on défend l'intérêt de l'industrie. On ne peut pas nier cette réalité. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, voilà comment j'ai travaillé. Et c'était très complexe, et en même temps, je voulais. Le diable, il est dans le détail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce système marche parce qu'on nous dit, vous savez, c'est très compliqué, faites-nous confiance, les experts, on sait ce qu'on fait. On ne peut pas vous expliquer, parce que vraiment, c'est très compliqué. Alors, non, moi je dis non. Quand il s'agit de la sécurité et de la santé, et puis de la qualité de l'environnement, et de la santé des gens, cet argument, ça suffit. Voilà. Au contraire, le diable est dans le détail, et quand on rentre dans le détail, vous vous rendez bien compte que le système de réglementation, ils ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent même pas défendre leur propre système. Parce qu'il y en a une qui résume très bien, d'ailleurs, une des expertes du groupe, le JMPR, le comité d'évaluation des pesticides de la FAO et de l'OMS, quand elle dit, elle a un aveu extraordinaire, elle dit, si vous voulez un risque zéro, vous avez raison, il ne faut plus de pesticides, mais c'est une décision politique, et là, elle a raison. Parce qu'elle est chargée d'évaluer le risque. Alors, ils évaluent, transmettent, et les politiques sont les gestionnaires de risque, c'est eux qui doivent décider. Et si, tant que les politiques les autorisent, it's the best we can do. C'est le mieux que nous puissions faire. Donc, ça veut dire, le système, il marche à peu près, moyen. Mais tant qu'on voudra mettre des poisons dans l'environnement, il faut bien savoir que ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux. Il y aura des malades, il y aura des morts.
Voilà, pour la bonne organisation du débat, donc. Dominique Perrin de la librairie du soir nous a passé avec le micro, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Mais vous passerez tous, n'inquiétez pas. Madame.
Il y a des tas de livres qui ont été écrits. Nicolino, Vaigrette, etc. Enfin, il y a sur les pesticides, sur l'occurrence avec la prévalence des cancers en fonction de l'exposition aux pesticides. Qu'est-ce qu'ils font là-haut, au final? Qu'est-ce qu'ils font? Je veux bien qu'il y ait une inertie, mais il n'y a pas qu'une inertie. Il y a une collusion absolument permanente entre l'industrie qui paye éventuellement des politiques pour leurs élections, voire éventuellement effectivement ce qu'ils appellent les claques tournantes, c'est-à-dire que certains vont être au gouvernement, vont passer à l'industrie, vont passer de l'industrie au gouvernement. Comment voulez-vous qu'avec Un vérolage, pareil, parce que c'est vérolé, comment voulez-vous que ça arrive? Ça fait quand même depuis les années 80 qu'il y a des bouquins qui sont écrits sur les pesticides, sur la chimie. Il y a un bouquin qui s'appelle Plastique Planète. Combien on les paye, tous ces gens-là? Combien? Est-ce qu'un jour quelqu'un fera le total de combien coûtent tous ces grands fonctionnaires là-haut qu'on prend le paillet?
Alors, moi, j'ai plutôt essayé de répondre sur un terrain, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge, parce que voilà, on est tout ça. Moi, j'ai pas fait ça. Alors, ceux qui veulent dénigrer mon travail disent c'est alarmiste, fait peur, tout ça. Oui, évidemment, je peux vous dire que c'est rassurant ce que je vous raconte. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que quand j'étais ici il y a 3 ans pour le monde sur Monsanto, la salle était aussi pleine, il y avait plein de gens qui m'avaient dit qu'ils étaient inquiets. Inquiets parce qu'il y a des cancers partout, on vient de voir. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé ce film en disant savoir, c'est pouvoir, parce que. Je pense qu'effectivement, il faut que nous, les citoyens, nous devions nos propres experts. Et si j'ai fait ce film, c'est pour que vous compreniez comment ça marche, que lui, il y a plus de détails, que vous voulez en savoir plus. Voilà. Alors après, pour que vous puissiez agir. Et alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que contrairement à ce qu'affirmait encore récemment, par exemple, quelqu'un comme Jean-Charles Bocquet, qui est le directeur de l'Union des industriels de la protection des plantes, qui à la fin ne veut pas me répondre, mais qui depuis me court après, avec Libération, Radio France Internationale, je vais faire un débat avec lui dans ce décollet, et tout ça y est. Ça y est, on est de grands amis, on se rencontre sans arrêt, on fait des face à face et tout. Vous pouvez aller voir sur internet libération.labo, 1 heure de ping-pong. Donc il a reconnu pour la première fois, je te présente au passage, Jean-Marie Bonny, qui est dans le film, qui est donc, qui était dans une coopérative agricole, n'est-ce pas, qui est un lymphome non-Hodgkinien, et qui est en cours de reconnaissance de maladie professionnelle par la mutualité sociale agricole.
Depuis 8 ans.
Voilà. Alors il pourra peut-être expliquer après les difficultés qu'il a. Depuis 8 ans. Dans mon livre, je parle de ça.
Quand je dis depuis 8 ans, c'est uniquement le dossier administratif. Le dossier médical, il est calé.
Voilà, alors donc, contrairement à ce que dit Bocquet, qui encore il y a peu de temps disait qu'il n'y a pas de lien établi entre l'exposition aux pesticides et certains cancers, aujourd'hui, en tout cas, quand nous étions ensemble à Libération, il a fini par dire c'est regrettable. Voilà. Non, on est donc, ça y est, on n'est plus dans le déni, on est dans ces regrettables. D'ailleurs, à Tiki, nous recommandons chaleureusement, c'est pour vous, n'est-ce pas, aux agriculteurs de porter les combinaisons, vous savez, de cosmonautes qui sont censés mettre pour pouvoir arroser les fruits et légumes. Et quand je lui ai d'ailleurs dit, oui, sauf qu'il y a un problème, il y a l'AFSET, maintenant qui a disparu, qui a été avec une agence de réglementation des stands, qui a fait un rapport en janvier 2010 sur les fameuses combinaisons que vous étiez censé mettre, que tu n'as jamais mis. De ta faute d'ailleurs si t'es malade, c'est la preuve. Oui, c'est ça l'argument. Le rapport était dramatique parce qu'ils ont testé des combinaisons, ils ont montré que ça ne protégeait pas du tout les agriculteurs. On ne peut pas protéger les humains de poison mortelle. Je vous dis, on peut toujours bricoler, hein, on continue de bricoler. En tout cas, maintenant, il dit qu'il y a. C'est regrettable, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je dis et je redis encore plus qu'avant, il faut encourager l'agriculture biologique, je continue de le dire, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas compris. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur que c'est plus cher, enfin, on pourrait, mais enfin, c'est pas le moment, là, on a d'autres choses à se dire. En tout cas, il faut faire tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ensuite, il y a des associations qui font un très bon travail, je vous le dis quand même, et qui ont besoin de volontaires. Par exemple, le réseau Environnement Santé d'André Cicolella, qui a en ce moment, depuis la sortie du film, demandent, et ils font un très bon travail auprès des politiques. Par exemple, sur le dossier du bisphénol A, c'est le RES donc, qui a petit à petit convaincu les députés de bouger, et nous sommes en bonne voie pour faire interdire le bisphénol A au moins dans la chaîne alimentaire. C'est imminent. Donc il faut rejoindre ce genre d'association parce qu'ils ont besoin de volontaires partout, ou Génération Future, n'est-ce pas, de François Layret, parce qu'ils ont aussi besoin de bonne volonté pour faire avancer les dossiers. Alors, François Bérette et Génération Future parrainent et puis aident l'association dont tu fais partie maintenant, Jean-Marie. Vous avez vu au début du film, j'étais à Ruffec, ça c'était en janvier 2010. Et un an après, nous y étions le 18 mars, tout nouveau, n'est-ce pas, à Ruffec. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand nous y étions le 18 mars, il y avait 100 de personnes dans l'association que vous avez créée qui s'appelle Phytovictime. Et 10 jours plus tard, vous êtes
200.
Voilà. Donc ça veut dire que les agriculteurs sont en train de sortir du silence et je pense que nous allons vers un grand scandale aussi important que l'amiante, parce que c'est des milliers de victimes déjà parmi les agriculteurs, de malades partout en France. Et c'est un sujet difficile, n'est-ce pas? On a du mal à en parler quand on est agriculteur. Et je vais passer la parole. Et pour, je voulais simplement dire que je le sais très bien parce que je suis quand même fille d'agriculteur. Il a fallu que je fasse mon film sur Monsanto et celui-ci maintenant pour que dans ma propre famille, où nous avons un parkinsonien qui a déclenché sa maladie à 45 ans, agriculteur, deux associés de mon père qui sont morts d'un cancer foudroyant du foie et d'une leucémie foudroyante, un oncle qui a le cancer de la prostate, qui a passé la trazine que tu connais bien pendant 30 ans dans ses champs de maïs, et il a fallu tout ça, enfin, que je fasse mes films pour qu'aujourd'hui on se dise dans ma propre famille. C'est quand même incroyable, il n'y avait pas toutes ces maladies il y a 30 ans. Et tu as raison, ça vient des produits chimiques qu'on a passés dans les champs. Tu voulais dire quelque chose?
Oui, pour répondre à la question de cette dame, l'an passé, on se connaît avec Marie-Monique depuis un an, l'an passé on était à l'UFEC, on était 6 ou 7 exploitants, donc il y a Nick Chenet qui est disparu, qui est décédé fin janvier, je crois, de Londres. Son épouse est devenue vice-présidente de cette association. L'association s'appelle Phytovictime et le président c'est Paul François qui lui avait été intoxiqué par le lasso, donc de produit Monsanto au passage. Voilà. Donc l'an passé nous étions 6 ou 7, cette année nous étions présents 45 dans la salle. Le film de Marie-Monique a été présenté dans un petit village la veille au soir, il y avait environ 300 personnes. Mais depuis que l'association s'est créée, puisque les statuts sont en train d'être déposés, les médias se sont emparés tout de suite avec notre accord, bien sûr. Depuis, nous sommes 200. Alors, quand je dis 200, c'est autant les sympathisants que les malades. Mais le bureau, la constitution de cette association, ce ne sont que des gens athées. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, moi, je suis du Gard et je suis soigné ici à Montpellier par le service du professeur Rossi. Et c'est le professeur Rossi qui a fait des chimios en 2002. M'a dit « Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ?» Ben, je lui ai dit « J'ai touché aux pesticides. » Donc, autant des essais en plein champ, des organisations de traitement par hélicoptère, des manipulations d'emballage, ça crevait par exemple et tout ça. Voilà. Et il m'a dit « Je vous conseille, à l'époque, c'était début 2003, ça s'est passé à la Péronie. Il m'a dit « Je vous conseille d'ouvrir un dossier de maladie professionnelle. » Et là, le ciel, il m'est tombé sur la tête parce que je ne pouvais pas faire des relations entre un boulot qui était super intéressant et ce qui m'arrivait, parce que ce lymphome, donc, c'est, pour moi, c'est un deuxième cancer, puisque j'avais eu le premier cancer il y a 15 ans.
Alors aujourd'hui, la mutualité sur lymphome que vous avez vue dans le film peut accorder, ou d'ailleurs les TAS, les tribunaux, les affaires sécurité sociale, le statut de maladie professionnelle à une dizaine de cancers, hein, parce qu'il faut savoir que, parce que je fouette le diable dans le détail, donc on va dire exactement. La population agricole a en général, grosso modo, moins de cancers que les autres, mais ils en ont plus pour certains cancers. Voilà. Et donc ces cancers qui peuvent être reconnus à maladie professionnelle, ce sont donc les lymphomes, tous les cancers du sang, donc les leucémies, lymphomes Hodgkinien, non Hodgkinien, les cancers du cerveau, les cancers de la prostate, les cancers du foie, les cancers du pancréas, les maladies neurodégénératives comme la maladie Parkinson, les leucémies, j'ai dit. Parkinson, la maladie de Charcot aussi peut être reconnue maladie professionnelle et ça va progresser parce qu'il y a aussi des cancers de la peau. Alors, comme tu le dis, le problème pendant des années, on a pu nier le lien entre ces produits chimiques et ces cancers pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand on est agriculteur, toi tu n'étais pas agriculteur, tu étais technicien dans une coopérative agricole, n'est-ce pas ? Tu as manipulé des centaines de molécules chimiques pendant 30 ans. Quand Jean-Marie, tu déclenches ton lymphome, il est très difficile de prouver que ton lymphome est dû à une molécule. Vous comprenez ? Si vous comparez avec l'amiante, la chance, entre guillemets, parce que d'abord, qu'avaient les victimes de l'amiante, c'est qu'il y avait un cancer précis qui était lié à l'exposition, okay, et le mésothélium, en l'occurrence, un cancer très particulier, d'ailleurs tellement particulier qu'on parle du cancer, on parle du cancer de l'amiante. Et donc, si vous pouvez prouver que vous avez travaillé dans une usine de viande pendant des années, bon, et pourtant, malgré ça, vous avez vu le combat qu'il a fallu que les familles mènent. Mais bon, en tout cas, c'est plus simple que quand on a été exposé à des centaines de molécules qui sont toutes, pour la plupart, en tout cas, cancérigènes. Et c'est ça qui assurait jusqu'à présent l'impunité du fabricant de pesticides, évidemment. Parce qu'après, on va vous dire, ah ben oui, monsieur, mais comment vous savez que c'est mon produit qui a déclenché...
Oui, on parle de cocktail, actuellement, de...
Voilà, alors, voilà, tout à fait. Et l'association qui vient de créer, justement est en train de voir avec les avocats comment ils vont faire évoluer la jurisprudence. Alors, malheureusement, nous n'avons pas en France le système des class action qui permettrait de regrouper tous ces paysans malades et de faire une action collective, mais en tout cas d'essayer de faire évoluer la jurisprudence pour dire on sait que il y a des dizaines de pesticides qui sont cancérigènes. Donc quand on fait une action en justice, on ne s'attaque pas à un produit particulier, parce que ça c'est, mais pas à une classe de produits par exemple. Voilà. Donc ça c'est un travail à faire d'un point de vue juridique pour arriver à gagner. Il faut savoir par ailleurs que c'est toujours ce qu'a dit d'ailleurs l'industrie des pesticides. Ils disent toujours oui, mais il n'y a aucune, à part l'arsenic qui a été reconnu officiellement comme étant un produit cancérigène et qui est donc dans les associés, donc dans les tableaux de, vous savez, de la sécurité sociale pour les malades reconnus comme maladies professionnelles officiellement, dans le, eh bien, les autres ne le sont pas. Et oui, ils ne le sont pas pour la raison que je viens de vous indiquer. Parce que c'est très difficile de prouver que telle maladie est liée à telle molécule. Mais donc, ce que font les agriculteurs en général, la mutualité sociale agricole, dans un premier temps, elle va dire maintenant, votre maladie n'est pas reconnue comme maladie professionnelle dans le tableau des maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ils passent par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TAS, il y en a un par région, qui, selon les régions, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que quand on est dans la bonne région, excusez-moi, il y en a d'autres, eh bien, il y a des experts qui sont nommés et qui font ce que j'ai fait, ils regardent la littérature scientifique. Et ils disent, c'est quoi la littérature scientifique? Ah ben, c'est en général les études épidémiologiques. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est ça toute l'absurdité de ce système. Et il faut vraiment tout faire pour que ça change. C'est que, juste pendant des décennies, et l'amiante, c'est une illustration parfaite de cela, on a laissé les produits toxiques dans la nature, et on a commencé à bouger que quand il y avait trop de morts dans la mort. C'est la technique, d'ailleurs, aux États-Unis, on appelle ça the dead body method. Ça veut dire la technique de compter les morts dans la mort. C'est-à-dire, on attend l'épidémiologie. Mais quand l'épidémiologie compte les morts, ben, c'est trop tard. Oui, on faudrait quand même agir avant. Donc, mais c'est ça qu'on fait, en fait. Donc maintenant, l'autre, si ce n'est pas des études épidémiologiques dont les fabricants disent d'ailleurs, oui, mais bon, c'est épidémiologique, vous savez, on interroge 500 agriculteurs qui ont le syndrome de Parkinson, et on les interroge sur les produits qu'ils ont utilisés, ils en rajoutent, enfin, souvent ils critiquent les études épidémiologiques des fabricants. Alors, il vous reste des études sur les animaux. Alors, ce dit au passage, je le dis parce que vraiment, ça m'a frappé. Autant j'ai été frappé par le tribut payé par les ouvriers dans les usines avec cette folie chimique, alors les animaux, alors le tribut qu'ils ont payé, eux, alors c'est absolument inouï. Et je trouve même très choquant d'un point de vue éthique, mais c'est un mot qui presque m'insulte aujourd'hui, enfin, de se dire qu'on va baser toute notre sécurité à nous les hommes sur le massacre du vivant d'animaux, parce que c'est comme ça que ça marche. On a des poisons, on les teste, on fait mourir les animaux, après on les rend malades, après on teste la dose pour trouver la dose pour laquelle on se rend malade. C'est absolument inouï. Mais en tout cas, c'est le seul outil qu'on a dans ce monde où on trouve normal qu'il y ait des poisons dans l'environnement, c'est le seul outil qu'on a pour les réglementer. Hein. Et donc, les études sur les animaux, c'est l'autre manière de vérifier qu'un produit est cancérigène. Alors là, les fabricants, ils ont un autre argument. Ils vont dire, ah, mais les animaux, c'est pas des hommes. C'est incroyable, vous verrez dans mon livre, ils ont tout utilisé hein, pour maintenir les produits sur le marché. Et c'est sérieux ce que je veux dire. Ils vont remettre en cause les études sur les animaux sous prétexte que le mécanisme cancérigène constaté sur la souris n'a pas été démontré suffisamment et on n'est pas sûr qu'il puisse être transposable à l'homme. Sauf que quand ils font des médicaments, vous parlez de la pharmacie, ben, eh bien,
là, ils les utilisent.
Voilà, non seulement ils les utilisent, mais quand ils font des essais sur les animaux, oh, il n'y a pas de problème, allez, on y va, tac, c'est bon. Là on ne dit pas le mécanisme de je ne sais quoi.
Les OGM, c'est pareil. Hein. On les teste 3 mois, les souris, c'est bon. On
commence. Donc voilà. Tout ça pour dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est clair, ce qui ressemble à tout ça, c'est qu'il faut appliquer un principe qui est maintenant dans notre constitution, qui est le principe de précaution. Et contrairement à ce que dit Mme Bachelot, qui ne nous a pas dit que des choses intelligentes, on le sait tous, hein, parce que je vous rappelle quand même que quelques mois après sa déclaration fracassante à l'Assemblée nationale, les biberons en plastique contenant du bisphénol étaient interdits. Enfin bref, pas pour moi. Enfin bref. En tout cas, ce n'est pas le principe de précaution, le principe de l'émotion. Le principe de précaution, vous regardez bien les textes, ça a commencé avec la conférence de Rio de Janeiro, ça a été repris dans le traité de Maastricht, et puis etc. Et nous, dans notre constitution, c'est quand on a une information partielle, on n'attend pas de compter les morts dans la morgue, c'est ça le principe de précaution. Hein. on a une information partielle, notamment par exemple une étude bien faite sur les animaux qui montre qu'il y a un problème avec un produit, on retire le produit du marché. Voilà ce que ça veut dire le principe de la caution.
Moi, je voulais juste vous donner un petit les conclusions d'un rapport de la FAO, une phrase. Parce qu'il y a un volet, excusez-moi si vous permettez, que vous avez, disons, passé sous silence dans, dans ce film, c'est tout ce qui concerne la production des animaux et la consommation de viande. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait sur les pesticides et tout ce qu'on sait sur les produits chimiques, en tout cas pour les légumes, se retrouve dans la production animale. Et donc, on consomme ces produits chimiques au travers des viandes que l'on mange. Donc, le rapport de la FAO dit « Il n'est pas surprenant que les trois quarts des nouveaux pathogènes Les nouveaux pathogènes ayant affecté les humains dans les 10 dernières années proviennent des animaux ou des produits animaux. » Donc ce qu'il faut entendre à travers cette phrase, et je me dis que cette phrase parce qu'autrement sera un peu long, c'est que manger moins de viande, beaucoup, beaucoup moins de viande, diminuer votre consommation pour rester en bonne santé. Je vais vous remettre ce rapport, madame.
Oui, je connais.
Il y a tout un rapport et en même temps sur les élevages, sur les animaux. Nous sommes un collectif montpelliérain, nous avons fait ce petit rapport à votre attention. Donc si vous permettez, je vais le remettre.
Non, alors vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je n'ai pas fini, mais on est là pour parler de ça. Moi, personnellement, j'ai changé ma manière de manger. Je mange moins de viande. Alors, je ne suis pas végétarienne, mais je mange moins de viande. Pour une raison très simple, c'est que ça, aussi 50% des céréales qu'on produit sur cette planète, pour ne parler que des céréales, servent à nourrir les poules, les vaches et les cochons, nos élevages intensifs. Donc, si on veut un jour sérieusement nourrir le monde, et on en parlera peut-être après, c'est le sujet de mon prochain film et livre, d'ailleurs. Que j'ai déjà commencé d'ailleurs aussi, eh bien il faudra manger moins de viande, c'est clair. On est bien d'accord. En plus, manger trop de viande, c'est aussi un facteur supplémentaire. La viande rouge, notamment, cancérigène, parce que ça là-dessus, il y a plein d'études aussi qui le montrent, si on en mange trop. Hein. Donc voilà. Et sans parler du problème, comme vous l'avez indiqué, moi je mange moins de viande, mais je ne mange que de la viande bio. Voilà. Donc c'est un peu plus cher, mais comme j'en mange moins, finalement je retourne sur mes pattes, si j'ose dire. Voilà. Et en plus, il y a le problème, comme vous l'avez dit, ces animaux sont nourris avec du soja transgénique à du Roundup, par exemple, ou des antibiotiques, voilà. Et puis, c'est un vrai problème de santé aussi, un problème sanitaire, pour la résidus d'antibiotiques dans la viande. Donc, c'est pareil pour les œufs, d'ailleurs, hein, je dis au passage. Il vaut mieux ne manger pas d'œufs que de manger des œufs pas bio, ça c'est clair. Les œufs qui ne sont pas bio, ont un rapport oméga 3, oméga 6 qui est de 1 pour 30. Et c'est vraiment, comme je le disais dans ce film rapidement, parce que ce n'était pas mon sujet, mais je voulais terminer là-dessus, c'est se mettre en système, en prédisposition inflammatoire, et l'inflammation fait le lit du cancer. Donc si on mange des œufs, c'est des œufs bio, sinon on ne mange pas d'œufs. Voilà, c'est simple.
Bien, alors la première, c'est que, comme toute chose, le cancer est évidemment quelque chose qui est multifacteur. Bon. Dans les cartes que vous avez présentées à un moment des incidences de cancer à l'échelle mondiale, il y a quand même un aspect qui me paraît important de tenir en compte, ça paraît évident, c'est celui de l'âge des populations. Je ne pense pas que la durée de vie en Orisha soit la même que dans nos pays développés. Alors cela dit, qu'on mange mieux en Orisha, c'est très possible, mais néanmoins, il faut faire les choses. Il faut faire les comparaisons, toutes choses égales par ailleurs. J'imagine que certains scientifiques ont essayé de le faire. Alors maintenant, excusez-moi, je vais aller un tout petit peu plus loin. Vous avez un petit peu évoqué la question. Nous sommes actuellement 6 milliards de personnes sur cette brave Terre. Il est prévu que d'ici 20 ou 30 ans, nous soyons 9 milliards. Je n'y serai plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut malheureusement nourrir ce monde. Et il y a quand même un problème, comme vous le savez, c'est que les productions biologiques, qui sont, moi aussi j'essaye de manger biologique, mais c'est une préoccupation d'hommes, si je puis dire, riches. Et je pense que faire manger 6 milliards de personnes, alors il y a la question de la viande qui a été évoquée, qui est une bonne piste. En manger moins, ça arrangerait bien les choses. Enfin quand même, il faut faire manger 6 milliards ou 9 milliards de personnes avec des œufs bio, du lait bio, des légumes bio, ça pose quand même certains problèmes, et sans pesticides pour protéger les cultures.
Je vais vous répondre. Aucun problème, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que là. Alors, la première réponse. Les cartes que je montre, ce sont les cartes du CIRM. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, ce sont les cartes du Centre international de recherche sur le cancer. Vous pouvez vous-même taper CIRM et vous les trouverez, ces cartes. Donc ce sont des cartes qui sont basées sur toutes les données qu'ils ont, même c'est l'OMS, donc, récoltées dans tous les pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'incidence du cancer est donc 30 fois moins important en Inde par rapport à chez nous, mais ça tient compte aussi des tranches d'âge. Il y a 30 fois moins de cancer par tranche d'âge, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les personnes âgées, et indépendamment du facteur vieillissement de la population, tout ça ce sont des facteurs dont ils ont tenu compte. Ce que ça veut dire, c'est qu'on produit moins de cancer dans ces populations-là, quel que soit l'âge où vous êtes, pour la tranche des 30-40 ans, la tranche des 45 ans. Effectivement, l'espérance de vie, on a des 62 ans, par exemple, si on compare avec la France, mais ça ne change rien, c'est le fond du problème, il y a 30 fois moins de cancer là-bas. Et c'est en train de changer, et c'est aussi ce que donnent les chiffres, là, ça va un petit peu vite, mais dans le livre, je donne plus de détails, parce que je suis allé à ce colloque et j'ai récolté tous les chiffres. Donc ça change, ça a changé déjà dans la région du Punjab, qui est une région où on passe, qui est la région de la Révolution verte. J'ai moi-même fait un film d'ailleurs qui s'appelait Blé, chronique de mort annoncée, où on a passé beaucoup de pesticides et le taux d'incidence du cancer a explosé là-bas par rapport aux autres états indiens. Et ça change aussi dans les grandes métropoles, notamment pour le cancer du sein et le cancer de la prostate et les cancers hormonodépendants, qui sont ceux d'ailleurs qui sont les plus qui ont le plus explosé dans nos pays. Donc voilà. Ça, c'est un fait, et c'est pareil pour l'Afrique, c'est pareil pour pour l'Amérique du Sud, à part quelques petites enclaves, ils ont adopté le même mode de vie que nous, et du coup, et ce qui est frappant aussi, c'est que, j'en parle dans le livre, quand vous prenez des études, par exemple, des Japonais qui vont s'installer à Hawaï, le Japon est un pays où il y a un taux de cancer beaucoup moins important que dans, on pourrait essayer de comprendre pourquoi, notamment l'alimentation joue un rôle là-dedans, et bien quand ils s'installent à Hawaï, ils récupèrent le même profil du cancer qu'à Hawaï, les États-Unis. Et ça explose en une génération, ils se sont alignés sur le taux de cancer qui est à Hawaï, et ils en ont beaucoup plus qu'ils en avaient quand ils sont partis du Japon. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, peut-on nourrir le monde sans pesticides? Alors évidemment, c'est pour ça que je vous dis, c'est mon prochain film et livre. Je vous informe d'ailleurs au passage, pour ceux que ça intéresse, j'ai apporté un petit flyer, parce que j'ai créé ma maison de production pour faire ce film avec Arte, pour être complètement indépendante, et c'est précisément pour répondre à cette question. Et pour ceux que ça intéresse, je lance une souscription à un préachat de DVD pour participer à la production de ce film. Mais bon, ceux que ça intéresse, il y a de l'information ici, j'ai un site internet, je vais faire la parenthèse. En tout cas, j'ai déjà commencé à filmer ce film et j'étais à Genève le 8 mars dernier aux Nations Unies où j'ai filmé M. Olivier de Schutter, qui est le nouveau rapporteur pour le droit à l'alimentation et qui a fait un exposé sur l'agroécologie, en disant que c'est le seul modèle qui nourrira le monde, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que il a fait un bilan dramatique, que je partage tout à fait, parce que j'ai quand même suffisamment fait le tour de cette question dans le monde pour voir que la révolution verte des pesticides n'avait pas nourri le monde, et c'est bien le contraire qui se passe. 1 milliard de personnes qui sont en état de malnutrition, 3 millions d'enfants qui meurent chaque année de faim. Et il disait très justement, si vous faites le bilan, c'est 32%, l'agriculture industrielle c'est 32% du réchauffement climatique, des gaz à effet de serre. C'est la perte de la biodiversité sur laquelle nous devons notre survie. C'est la pollution des eaux et la baisse des ressources en eau, à tel point d'ailleurs que le Parlement européen vient de sortir un rapport que je vous invite à consulter, où ils ont calculé, enfin, ils ont mis sur un papier toutes les externalités, comme on dit, de ce modèle agricole industriel dont on ne parle jamais, quand on dit que le bio est plus cher que par exemple l'agriculture chimique. On ne dit jamais que ça coûte tant pour désintoxiquer les eaux, on n'y arrive même pas d'ailleurs. On ne dit jamais combien coûte un agriculteur malade, n'est-ce pas, en traitement, etc. On ne dit jamais, ils ont calculé le coût des morts à cause des pesticides. Et le résultat, c'est que le Parlement européen se base sur 5 études faites aux États-Unis et en Europe qui parviennent toutes à la même conclusion. Si on interdit les pesticides en Europe, nous gagnons 30 milliards d'euros par an. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'on dit d'habitude. Donc, tous ces gens, je les rencontrerai, c'est des économistes, c'est des agronomes. En tout cas, ce que dit Olivier de Schutter, c'est qu'il y a des régions du monde entier en ce moment, en Tanzanie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, où on adopte une agriculture sans intrants chimiques. Alors, évidemment, il n'y a pas de modèle universel, c'est adapté aux réalités locales. L'agroforesterie en Tanzanie, par exemple, on obtient des rendements 3 fois supérieurs à ceux obtenus avec l'agriculture chimique. Et en tenant compte, évidemment, de tout ce que je viens de raconter. Donc, des rendements très importants qui nourrissent le monde sans détruire l'environnement. Et ça, c'est très important parce que ça s'inscrit dans un développement durable. Donc, j'en arrête là parce que ce sera le prochain film et livre, on en parlera longuement. Contrairement à ce qu'on dit, les pesticides ne nourrissent pas le monde. Ils ont mis à la rue des millions de paysans qui sont dans les bidonvilles maintenant, aujourd'hui. Et on se retrouve avec des monocultures énormes qui sont faites essentiellement pour nourrir les vaches et les cochons et les élevages intensifs, qui ne nourrissent pas les hommes. C'est tout le contraire. On se retrouve avec des territoires entiers, où comme en France d'ailleurs, où les territoires sont morts. Si vous mettez plus des tonnes et des tonnes d'engrais, vous n'avez rien qui pousse. C'est même plus les sols, et sans parler du problème de l'eau. Donc ce modèle, vraiment, ne sert à rien. Et c'est tout le contraire. Et si on veut nourrir le monde, il faut de toute urgence en sortir.
Alors, en poussant l'analogie un peu loin, je veux dire que c'est un modèle génocidaire.
C'est un modèle qui est basé sur le business avant tout. Et je voudrais vous donner
le business en tant que fin, quoi.
Oui, je voudrais vous donner une autre information. On nous raconte plein de mensonges sur les pesticides. Moi je les connais, c'est parce que mes parents ont cru à ces mensonges. Mon père le dit aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir un petit peu, savoir plus comment ça s'est passé dans ma famille, rue 89 a fait un portrait simplement accompagné. Chez moi, enfin, etc. Et c'est intéressant parce que mon père, qui était un militant catholique de la JAC, la JAC, je pense que c'est vrai que vous entendez parler de ce mouvement, a vraiment accompagné ce modèle de la Révolution verte. Il me disait, mais Marie-Monique, nous on voulait nourrir le monde. Il me dit aujourd'hui, mais pourquoi on voulait nourrir le monde? Il fallait nourrir la France déjà, c'est bien. Bon, on va pas aller nourrir l'Afrique, laissons-les se nourrir eux-mêmes, et voilà. Et donc, il est très malheureux, en plus il y a tous les malades autour de nous, donc il est encore plus malheureux. Donc ce modèle, il y a beaucoup d'agriculteurs qui y ont cru, n'est-ce pas? Et on ne va pas leur jeter la pierre d'ailleurs, parce que évidemment on leur a raconté des histoires. On ne leur a pas dit par exemple, deux études, je voudrais dans mon livre, c'est pour ceux qui lisent, une étude américaine et une étude de l'INRA. L'INRA, quand même, ils ont bien accompagné ce modèle. Hein. Eh bien, ils reconnaissent que quand vous passez des pesticides dans un champ, tu sais le pourcentage qui atteint sa cible? 1 à 3%. 1 à 3%. C'est rien. Tout le reste, par l'environnement, c'est l'eau, l'air, 1 à 3%. Quel que soit le modèle, hein, quand tu passes par l'eau, évidemment, c'est encore moins. Et en plus, alors j'ai plus les chiffres là, ça ne détruit pas la majorité des insectes, pour une simple raison, c'est que très rapidement, les insectes sont devenus résistants, comme tu sais toi-même, ils sont devenus résistants. Donc c'est une embrouille, mais c'est un mensonge. On ne protège pas les cultures avec des pesticides, ce n'est pas vrai. Ce qu'on a fait depuis 50 ans avec la Révolution verte, on a tout misé sur des semences qu'on a sélectionnées uniquement pour une fonction qui est le rendement. Alors ça oui, le rendement du blé est passé de 10 quintaux l'hectare à peu près 80 quintaux l'hectare en un siècle pour ce qui est de la France. Moi j'ai fait un truc sur le blé. Bon, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a détruit la biodiversité du blé et que par exemple, quand on a en France 60% des terres cultivées en blé qui sont de la même variété, imaginez une maladie qui se met là-dedans, ben, on n'a plus de blé du tout, hein. C'est simple, et qu'en plus ce blé de mauvaise qualité, moi dans mon film Blé chronique du mort annoncé, j'ai expliqué comment la France, premier exportateur de blé au monde, en Europe, importe du blé du Canada, on a des rendements 4 fois inférieurs, mais un blé de bien meilleure qualité du point de vue protéine. Donc tout ça, il faut tout remettre sur la table et arrêter de dire des mensonges dans tous les coins qui ne servent qu'à vendre des produits chimiques dangereux pour la santé. On ne fera jamais une nourriture de qualité avec des poisons.
Je voudrais rajouter que le poison est rentré dans la molécule du végétal, puisque ça s'appelle l'OGM. Et ça, il ne faut pas y aller.
Merci pour cette fenêtre ouverte sur le monde kafkaïen de l'insécurité alimentaire que moi, personnellement, je connaissais très peu. Moi, j'ai une question, je suis un peu gêné, vous avez commencé à y répondre. Dans cet océan de cancer que vous avez présenté, je voudrais vous demander si, selon vous, finalement, le cancer primordial ne serait pas le capitalisme états-unien dans la façon dont il se déploie actuellement, et finalement, ce que vous lui présentez ne serait pas une métastase parmi toutes celles qu'il y a par ailleurs. Et donc,
évidemment, on va rentrer dans une question plus. J'ai parlé d'éthique tout à l'heure. Alors je pense qu'il est urgent de remettre de l'éthique partout, c'est partout. Et ça c'est, voilà. Et dans la politique évidemment en particulier. Et c'est d'autant plus important que...
Vaste programme aurait des générages.
Oui, vaste programme, mais urgent, parce que vous voyez après, vous voyez ce qui se passe en France aujourd'hui. Après c'est les extrêmes qui s'emparent de tout ça et c'est pas mieux pour vous. Et l'extrême droite en particulier, comme vous le savez. Donc ce que je veux dire, c'est que... on assiste en ce moment à une énorme crise. Et moi, ça fait 25 ans que je voyage. Et bien, ce que je vous dis aujourd'hui, je ne vous l'aurais pas dit il y a 3 ans quand j'étais dans cette même salle. J'ai vraiment le sentiment d'urgence pour la première fois de ma vie. mais vraiment d'urgence. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler des choses graves qui vont mettre en danger la planète dans 3000 ans, dans 300 ans, mais dans 50 ans. C'est-à-dire, là, moi j'ai 50 ans, c'est mon âge, quoi. D'accord ? Et on a une crise qui est une crise, effectivement, une crise de l'énergie, comme vous savez très bien. Hein. D'ailleurs, ce modèle agricole industriel avec ces pesticides qui sont des poisons ne peut pas non plus durer parce que c'est tout basé, et les engrais en particulier, sur les hydrocarbures dont on sait, vous savez tous comme moi, que ça ne va pas durer éternellement. Donc il faut vraiment réapprendre à faire des choses qu'on savait faire dans la ferme de mon grand-père, des assolements, des rotations de culture, mélanger les cultures pour faire partir les insectes, laisser les coccinelles manger les pucerons plutôt que de mettre des pesticides qui vont tuer les coccinelles et du coup les pucerons, enfin, etc. C'est un truc, c'est sans fin. Quoi, voilà. Il faut réapprendre à être agriculteur. Alors, ça c'est une chose, c'est la crise de l'énergie. La crise de la biodiversité, elle est énorme. Je parlais du blé. Bon, moi, quand j'ai fait mon film sur le blé, on estime à un moment dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu 300 000 variétés. Et on ne sait même pas comment il y en avait. Alors, aujourd'hui, on en a quelques centaines. Quelques centaines, et si on prend au niveau international, quelques milliers, mais et dont certaines sont très menacées. Et c'est vrai, vous savez très bien, crise de la biodiversité, c'est très grave parce que notre vie dépend de la biodiversité. On a aussi une crise du climat, comme vous savez, et une crise sanitaire. Les cancers qui sont vraiment le lot des pays industrialisés qui sont en train de gagner les autres pays, les maladies neurodégénératives, l'obésité. L'obésité est une maladie chronique qui est due aux produits chimiques, contrairement à ce qu'on veut nous dire, et je n'ai pas pu en parler dans le film, malheureusement, mais dans le livre, j'en parle. On sait aujourd'hui que les perturbateurs endocriniens sont des molécules obésogènes. C'est-à-dire que quand vous exposez un fœtus, donc c'est ça le grand enseignement d'ailleurs de cette enquête, c'est que les femmes enceintes sont particulièrement menacées à ces molécules, vous programmez l'obésité de l'enfant à venir. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent obèses aujourd'hui. On ne va pas dire qu'ils ont mangé trop de Coca-Cola et mangé trop de hamburgers. Et... évidemment que la malbouffe est un facteur aggravant, hein. Mais il n'y a pas d'autre explication à cette épidémie d'obésité qui est actuellement. Ce sont ces molécules. On revient toujours au même. Donc ces quatre crises sont l'expression d'une crise bien plus générale, qui est la crise d'un modèle économique capitaliste, on est bien d'accord, où tout est bon pour faire du business, y compris l'empoisonnement de l'environnement et des êtres humains. Et tant qu'on aura ce système, on ne s'en sortira pas, ça c'est clair. Alors, nous, les consommateurs, nous avons une clé, parce que c'est vrai que dans ce système, le porte-monnaie, eh ben, c'est ça qui fait pour faire évoluer le système. Mais il n'empêche que, ce que je veux dire par là, c'est que la crise écologique avec ces quatre grandes crises que je viens de décrire, où c'est vraiment urgent de bouger, la réponse, elle est politique. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que les politiques prennent les bonnes décisions, et vous êtes des électeurs aussi, pas que des consommateurs. Voilà.
Monsieur.
Oui, quels sont les différents types de certifications bio? Quel est leur degré de sérieux et de fiabilité? Parce que c'est un vrai problème, on entend dire ceci et cela.
Oui, ça c'est vrai, on me l'a souvent dit, le bio, est-ce que vous êtes sûr que vous... Bon. Alors évidemment qu'il y a toujours des gens qui vont tricher, qu'il faut être exigeant, bon, évidemment monsieur. Mais n'empêche que, globalement, il faut encourager le retour à l'agriculture bio, et si vous voulez échapper aux manipulateurs, eh bien il faut aussi couper la grande distribution, et il faut relocaliser les productions agricoles et la consommation agricole. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire dans des AMAP, parce que ça c'est recréer du lien avec l'agriculteur qui fait la nourriture, parce qu'après tout, quand vous êtes dans une AMAP, comme moi je suis en région parisienne, eh bien vous pouvez aller voir sur la ferme, à la limite la certification, on s'en fout, il suffit d'avoir une relation avec l'agriculteur et puis voir comment il travaille. Et voilà. Et si on avait des contrôles aussi importants dans les fermes, on utilise des produits chimiques où ils sont censés, vous savez, utiliser tant de litres, etc., etc., eh bien, on serait moins exposé, vous voyez. Alors, après, il y a des gens qui trichent. Bon, c'est sûr que d'acheter des courgettes, je vois des gens qui achètent des courgettes bio au mois de février qui viennent d'Italie, mais moi, je n'achète pas de courgettes bio qui viennent d'Italie, parce que d'abord, je ne sais pas ce qu'ils font en Italie.
J'ai deux questions. La première, c'est peut-être à votre ami agriculteur. On comprend très bien qu'il y a 30 ans, personne ne pouvait comprendre ce qui allait se passer. Notamment les agriculteurs, ils n'allaient pas. Depuis quand même au moins quelques mois, ça fait quelques années, le problème que vous pouvez citer est devenu public avec des doutes croissants sur les phytosanitaires, entre guillemets. Et aujourd'hui, le monsieur dit avec brandissant son drapeau, on était 3, on est 30. Mais pourquoi vous n'êtes pas 300 000 aujourd'hui avec les informations qui sont à disposition du public? Ça, c'est ma première question. Elle est peut-être psychologique, j'aimerais bien votre réponse. La deuxième question, c'est, je joue tout à fait un peu le rôle du naïf, mais vous citez les arguments qui sont clairs, scientifiques, du rapport des choses, je veux dire, c'est carré. En fait, une, vous posez des questions ici, il n'y en a pas un qui va dire ce que vous venez de dire est imbécile. Ils vont tous adhérer, probablement comme moi. Nos députés ne sont pas idiots non plus. Alors qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en tant qu'action pour que, au lieu d'attendre un an pour qu'on prenne conscience de tout ça, au niveau le plus haut de notre République, ça ne fait que 3 jours et demi. Excusez-moi d'être un peu provocateur dans la question.
Alors pour ce qui est des agriculteurs, et je vous dis, cette quinzaine de se passer est nouveau, est récent, et on est d'accord, je vous ai expliqué avant. Je vous ai expliqué que moi, dans ma propre famille, c'est récent qu'on a enfin reconnu que la maladie qui était chez les agriculteurs de la famille était liée au pesticide. Pour que vous compreniez, monsieur, pour celui qui n'est pas dans le milieu agricole, c'est difficile à comprendre. Mais quand on a demandé aux paysans de rentrer dans ce modèle de l'agriculture industrielle et chimique, au moment où je naissais, quasiment, parce que c'était, je suis né en 1960, voilà, bien sûr qu'on ne leur a pas dit que la trazine était un perturbateur endocrinien qui changeait le sexe des poissons, évidemment, on leur a jamais dit ça. Jamais, ou que le Roundup était un produit cancérigène aussi perturbateur de clients, ou que le. Etc. Ça, bien sûr, on ne l'aura pas dit. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir que pour rentrer dans ce modèle agricole, eh bien, il a fallu. Ils en ont chié, excusez-moi l'expression, parce que vraiment, je n'en vois pas d'autres. Ça a fait que beaucoup d'agriculteurs ont quitté les campagnes, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre pour marcher dans les villes, d'ailleurs, qui auraient bien aimé rester. Dans ma propre famille, il y en a qui sont partis, parce que voilà. Et ceux qui ne s'inséraient pas dans ce modèle capitalistique où d'un seul coup, il fallait emprunter à la banque, je ne la nommerai pas la banque en question, ceux qui ne le faisaient pas, eh bien, c'était, ils sortaient. D'accord. Donc quand vous avez tout ce modèle et qui a été vraiment un leitmotiv dans toutes les fermes de France et de Navarre depuis 50 ans, et aujourd'hui, alors tu me dis si je me trompe, après j'en arrive, aujourd'hui, moi, en tout cas ce que j'entends dans ma famille, y compris de mon propre père, qui, quand il a vu, je vais faire un aveu, excusez-moi, mais c'est un aveu personnel. Quand mon père a vu le film Le Monde selon Monsanto à Paris, il a fait un infarctus dans la nuit qui a suivi. Et quand nous sommes allés voir le cardiologue, on n'a même pas fait le rapprochement. Le cardiologue a dit à mon père, mais il vous a vu quelque chose de, qui vous a choqué, une émotion. Et là, il a dit, j'ai vu le film de ma fille. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous rendez tous ces agriculteurs à qui on a dit si tu ne sais pas utiliser les produits chimiques, tu es un pauvre plouc. Parce que c'est ça qu'on entendait dans les campagnes. Et moi, quand j'étais gamine dans les Deux-Sèvres, mes parents qui étaient des militants de l'Action catholique, ils disaient tu dois être fier d'être fils de paysan, parce que les paysans nourrissent le monde. Tu relèves la tête, tu n'es pas une fille de plouc. D'accord ? Et ça, ils m'ont transmis et je leur en sais gré. C'est ce qui fait que je ne perds pas de pédale, d'ailleurs, quand maintenant j'en suis à faire une tournée comme ça avec plein de monde. Eh bien, dire aujourd'hui à ces mêmes paysans, on vous a trompé, vous vous en avez chié pour rien, vous avez empoisonné l'environnement, vous avez empoisonné votre famille, eh bien, je peux vous dire que d'un point de vue psychologique, monsieur, eh bien, c'est pas facile.
D'accord, mais que fait la FNSA, par exemple?
Ah, ben, la FNSA, ils sont de l'autre côté du Manche.
Pourquoi vous
ne
faites pas le siège
à la FNSA? Moi, je ne vais pas faire le siège à la FNSA. Ce qui est sûr, c'est que le problème aujourd'hui de ce syndicat majoritaire, et je vais te donner un exemple des coopératives que tu connais bien, parce que tu travailles dans une coopérative. Eh bien, aujourd'hui, ils font partie de ce business. La coopérative que décrit mon père des années 40 ou 50, où il racontait à rue 89, la journaliste parisienne qui est venue sur la ferme de mes parents il y a peu de temps, qui ne savait pas tout ça. Mon père a dit, nous, quand on a créé les coopératives, c'était vraiment dans un mouvement de solidarité pour partager les moyens et échapper aux maquignons, notamment, qui étaient vraiment le sale mec. Voilà comment mon père a parlé. C'était une protection. C'est... Oui, sauf qu'aujourd'hui, les coopératives de France, c'est 80 milliards d'euros. C'est un énorme business. Certaines sont des multinationales, c'est le cas de Lehman Brothers. Eh bien oui, monsieur. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les coopératives ou les Cubas au début de leur création.
Je voudrais vous répondre aux deux questions que vous avez posées me concernant, et il n'y a pas de problème. La première, ce serait de dire pourquoi, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Bon, moi, je vais relater simplement une discussion que j'ai eue avec le professeur aussi dans son bureau au cours d'une consultation. Cela en est en 2011. La discussion, elle remonte à 2003. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et je le dis dans la salle, il n'y a pas de problème. M. Rossi, Jean-François, il est allé au Sénat pour faire avancer les choses. J'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, parce que les organisations à l'école sont plutôt lentes au démarrage.
Non, non, mais en plus, ils ont, je pense qu'en plus, ils ont la trouille pour dire la vérité, parce que tu as un collègue, Sylvain Ménard,
du Sénat, ça n'a pas bougé pas mal.
Non.
Sinon,
non, mais bien sûr. Mais bon, excusez-moi, je vais tous vous interpeller. Hein. Je le fais partout. Quand vous partez d'ici, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez à votre député, mais c'est vrai. Parce qu'il y a aussi une inertie de nous, je me mets dedans, des consommateurs. Parce que vous allez rentrer chez moi, c'est absolument atroce ce que je vais manger bio, mais il faut arrêter d'accepter ça. Et donc, je sais pas, vous écrivez aux députés, vous faites des manifestations, je sais pas. C'est comme ça aussi que ça bougera. Voyez. Et vous faites des campagnes, vous faites tout ce que vous voulez, mais il y a plein de choses à faire. Et malheureusement, on est tellement habitué à ne pas s'occuper de tout ça, y compris de ce qu'il y a dans notre assiette, que voilà, les gens ne bougent pas.
Il y a de la pudeur aussi, c'est notre nouveau président, Paul François, vous avez pu voir certainement dans beaucoup de médias. En agriculture, il y a quand même une énorme état, c'est que on est pudique et on parle pas forcément d'une maladie qui vient de nous tomber sur le coin de la figure et tout ça. Je pense que c'est lié tout ça. C'est pour ça qu'on a voulu.
Bonsoir.
Moi,
je voulais revenir en fait sur les labels biologiques. J'achète des produits bio depuis longtemps, je suis pour la production locale, etc. Donc, je suis convaincue. Mais j'ai une amie qui travaille à l'INRA qui elle aussi est convaincue et qui m'a quand même dit que finalement, le label, moi je choisis toujours le label français, pardon, parce qu'il est censé être beaucoup plus strict que le label européen. Donc quand j'ai le choix, je prends le label français. Mais elle m'a expliqué que justement avec l'arrivée de ce label européen, c'était très dur d'avoir le label français qui soit respecté et qu'en fait quand on achète avec le label même français, on a la charte européenne qui est respectée, mais sûrement pas la charte française. Donc je me retrouve à acheter des produits, je me sens complètement trompée, parce que finalement, il peut y avoir des antibiotiques dedans. La part, c'est de ne pas avoir été contaminée de gènes, c'est pas grave, parce que ça n'a pas été fait exprès, donc on leur laisse le label bio, etc. Donc aujourd'hui, avec ces labels où je suis censée être sécurisée en achetant du français, je me rends compte avec ce discours de cette amie qui est à l'INRA et qui est plutôt bien placée, je lui fais confiance, qui me dit aujourd'hui, attention, en fait le label bio français n'est qu'un label européen. Et le label européen n'est vraiment pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais en même temps, attention, parce que ce genre d'argument, vous l'entendez de la bouche de Bokeh, le patron des fabricants de pesticides, ça les arrange. Tout à fait, de dire ça, le bio, j'ai très bien compris ce que vous avez dit. Mais non, mais voilà, donc il faut quand même pousser le système à retourner au bio, et plus il y aura de demandes, plus on encouragera et on trouvera des solutions pour que les agriculteurs retournent au bio. Vous savez très bien que les agriculteurs qui sont en agriculture chimique, parce que moi je ne dis pas conventionnel, je dis chimique, il faut appeler un chat, il y a 3 ans au minimum, il y a la transition qui est très difficile à passer. Il faut attendre de désintoxiquer les sols, n'avez pas de label, etc. Et il faut donc les aider. Et plus on sera nombreux à demander, avec tout ce que vous dites et qui est vrai, on n'a pas d'autre option, je veux dire, sinon on reste dans le système où on est aujourd'hui. Et il faut être exigeant, il faut se battre pour des labels de qualité, des contrôles, etc. On est d'accord. Mais il faut qu'il y ait de plus en plus d'offres et qu'on encourage les paysans à retourner à l'agriculture biologique ou agroécologique, comme le dit Olivier de Schuckler.
Oui, bonsoir. Je voudrais en fait revenir sur, pour moi, le problème majeur dans ces questions-là, c'est le lobbying. Parce que pour moi, ce qui est flagrant en tout cas, c'est que, et notamment aussi dans l'énergie, moi je fais un peu plus partie de cette partie-là, on voit le pouvoir des lobbyistes et qui sont à côté de nos députés, qui leur donnent les lois, qui les écrivent, et ces limites, ils ne les lisent même pas. Voilà, moi je trouve que c'est quand même un gros problème dans notre République aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment là où on voit le pouvoir de l'argent, parce que plus il y a de lobbyistes, bien évidemment, plus il y a de pouvoir d'opinion. Et pour moi, c'est un peu comme le temps de parole dans les partis quand il y a des élections, ça devrait être pareil.
C'est en fait le système américain de lobbying, à très grande échelle.
Moi, c'est simplement pour dire qu'il faut se battre pour que les labels bio, être vigilant à qu'ils ne se dégradent pas. Mais il ne faut pas ne pas leur faire confiance. Il ne faut pas leur faire confiance, il ne faut pas laisser faire ce qu'ils veulent. Il faut contrôler sans arrêt. Mais il faut, il y a des labels bio qui existent, on est obligé de faire avec, mais il faut être vigilant avec eux et pas fermer les yeux et dire bon, c'est marqué AB, c'est bon, ça suffit pas.
Vous verrez dans mon livre, j'ai pu malheureusement être dans le film, mais parce que je ne peux pas faire plus d'une heure 52, c'est déjà pas mal. J'ai interviewé une lobbyiste d'un producteur de pesticides qui aujourd'hui fait partie de Syngenta, cette entreprise. C'était 112 à l'époque. Elle me raconte comment sa fonction au sein de 112, c'était de créer dans chaque État américain des groupes pro-pesticides financés par tous les fabricants de pesticides, pas que sa boîte elle, 112, qui était une boîte suisse, dont elle travaillait pour la filiale américaine de 112 aux États-Unis, et qui faisait qu'on payait un scientifique qui, quand il y avait un problème ou un débat sur un pesticide, on renvoyait la presse vers ce scientifique dont on pensait qu'il était indépendant. En fait, il était payé par l'industrie chimique. Et c'est incroyable de voir la machine qui a été mise en place. Alors, ils ont aussi, évidemment, c'est ce qu'avait fait Philippe Maurice, ils ont aussi recours, évidemment, à des agences de communication qui sont payées pour ça, pour traquer ceux qui... Alors moi, par exemple, je suis dans leur collimateur, bon, ça fait plus Monsanto, donc je suis habituée maintenant, ça ne fait plus rien, mais ils sont capables de faire monter au créneau un scientifique qui va casser votre travail, enfin, même pas votre travail, il va essayer de vous discréditer, ou de polluer les blogs comme le mien, avec des pseudos qui travaillent jour et nuit, mais c'est des agences de com, mais c'est ça. Moi, j'ai décrit ça dans mon livre, je donne les noms des agences. C'est une industrie, l'industrie du doute, et ça permet de gagner du temps. Jusqu'à ce que, eh bien... L'exemple du chloro de vinyle qui est le PVC, vous verrez, j'ai décrit tout ça en détail, tous les documents sont déclassifiés en plus, et bien jusqu'à ce que les pouvoirs publics, quand même, à un moment, se disent « Ah ben, il y a quand même trop de... » Enfin, on ne peut plus faire comme si... Parce que,
il y a trop de
morts dans la morgue. Ou là, le tabac, à un moment, bah, ça suffit. Là, du coup, le tabac va être récupéré par ces mêmes... C'est très intéressant de voir. Parce que par rapport à l'épidémie de cancer, vous avez vu comment j'ai dénoncé le rapport qui a été... signé par l'Académie des sciences et de médecine, qui est une manipulation absolument incroyable. Alors, maintenant qu'on ne peut plus dire que le tabac n'a pas de lien avec le cancer du poumon, eh bien maintenant on va dire que tous les cancers sont liés au tabac. Et évidemment, c'est que le tabac qui est responsable des cancers. Ce qui permet, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand vous commencez à travailler sur cette question, une fois que vous savez qu'effectivement le tabac est un facteur aggravant des cancers du poumon, ça ne va pas le lier, mais il y a beaucoup de cancers du poumon qui ne sont pas liés du tout au tabac. C'est-à-dire la pollution chimique qui sont liées dans les usines. Il y a plein d'ouvriers dans les usines qui ont des cancers du poumon à cause de. Oui, voilà. Donc, mais alors maintenant, c'est utilisé d'une autre manière pour, pour masquer l'hécatombe. Voilà. Donc, on est vraiment. C'est ça qui fait que c'était très difficile pour vous, par exemple. Parce que malheureusement, quand vous voyez le rapport de l'Académie des sciences et de médecine, moi, je m'en souviens très bien, c'est quand il est sorti, je commençais à travailler sur ce film. Et un matin, j'entends sur France Inter. Bonne nouvelle, d'après l'Académie des sciences et de médecine, quand vous entendez ça, vous dites, bah, voilà, c'est sérieux quand même. Hein. Eh bien, 0,2% des cancers sont dus à l'environnement. Mais c'est incroyable, je me dis. Tout le monde l'a repris. Et quand vous lisez bien le rapport, vous comprenez, bon, vous avez vu comment le propre CIRC lui-même dit que c'est un rapport évident, mais enfin, vous comprenez, il y a 80 pages, ils n'ont quand même pas pu faire autrement que de dire dans une petite ligne, la 48e page, que 50% des cancers qui existent aujourd'hui sont inexpliqués. Ah ben justement, c'est celui qui nous intéresse comme par hasard. Et personne n'a lu ça parce que c'est très bien fait le rapport. La presse, elle fait quoi? Elle lit le résumé, le premier, le summary, comme on l'appelle, le résumé, et la conclusion. Personne n'a lu que par rapport aux pesticides, eh bien, personne ne sait que ce qu'on a décrit dans le film. Effectivement, il y en a très peu qui sont classés comme cancérigènes parce qu'ils ne peuvent pas les évaluer, parce que les données ne sont pas publiées. C'est une astuce absolument incroyable, c'est absolument génial. Vous voyez ? Et puis en plus, il y a très peu de pesticides qui sont dans le groupe 1, et eux, ils se sont intéressés au groupe 1, parce que pour être dans le groupe 1, il faut des études épidémiologiques qui montrent le lien direct entre un pesticide et un cancer. Comme je vous ai dit, c'est très difficile. L'amiante fait partie du groupe 1 depuis très peu de temps. Vous voyez, et le benzène aussi. Alors que tous ceux avec qui... Quand moi j'ai fait mon tour du monde avec les scientifiques sérieux qui défendent l'État d'intérêt privé, ils me disent 80 à 90% des cancers, c'est l'environnement. J'ai rassemblé tout ce qu'on peut de trouver cette question sérieusement. Maintenant, vous puissiez vous en servir. Voilà.
Bien, nous allons remercier Marie-Monique Robin pour la qualité de son travail.